On va parler encore de Hanouka. Le Rambam, dans, au début de Ilchot Hanouka, donc il raconte le peu qu'on sait sur Hanouka, c'est-à-dire qu'il dit que bon, pendant le Bayit Sheni, au moment du deuxième existence du deuxième Bet Hamikdash, à peu près au milieu de son existence, les Grecs ont pris le pouvoir. Ils ont pris des xérotes contre les Bnei Israël, les empêchant d'étudier la Torah, les empêchant de pratiquer les mitzvot. Et puis, il y a eu les Hashmonaïm qui se sont révoltés, qui ont fini par gagner la guerre. Ils ont récupéré le Beth Amikdash, ils l'ont purifié, etc. Et voilà, et il y a eu une réinstauration d'une royauté juive sur la terre d'Israël pendant environ 200 ans, dit Rambam. Voilà. Ça, c'est ce que le Rambam dit. En plus, après cela, il parle de la mitzvah d'Adlakat HaNerot, de Nerot de Hanouka. Comment on allume, qui allume, etc. En fait, Rambam présente la victoire des Hashmonaïm comme ayant essentiellement eu comme conséquence positive le fait qu'il y ait eu, pendant 200 ans, dit-il, une royauté juive sur la terre d'Israël. Quand on le regarde d'un peu plus près, d'abord, si on regarde un peu plus près, c'était pas vraiment 200 ans, c'était plutôt 150, 160 ans. Et surtout, c'est vrai qu'il s'agissait d'une royauté juive. Mais, en fait, c'était pas spécialement réjouissant. Pour la raison suivante. Vous savez, quand on dit que les Grecs ont pris possession de la terre d'Israël et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ça s'inscrit dans la suite de la conquête par Alexandre de tout le monde connu, à peu près. Et Alexandre le Grand est mort très jeune, et ses généraux se sont disputés le pouvoir sur l'Empire. Alors, pour ce qui nous concerne directement, en Égypte et en Syrie, il y a eu deux généraux qui ont établi des dynasties qui ont pris le pouvoir. En Égypte, ce sont les Ptolémées. Et en Syrie, ce sont les Séleucides. C'est à partir des noms des généraux d'Alexandre. Ceux-là se sont fait la guerre. Et vous comprenez bien qu'à partir du moment où on se fait la guerre entre l'Égypte et la Syrie, le terrain de jeu de cette guerre, ce sera ce qui s'est appelé la Judée, c'est-à-dire la terre d'Eretz Israël. Alors cette terre, elle était à certains moments gouverné par les Ptolémées, à d'autres par les Séleucides. Avec les Ptolémées, on s'est plus ou moins bien entendu. Avec les Séleucides, beaucoup moins bien. Et c'est sous le règne d'un d'entre eux, d'un de ces Séleucides, qui s'appelle Antiochus, que se passe l'histoire de Hanouka. C'est-à-dire qu'en réalité, le Maharal explique que vous savez bien qu'il y a eu, traditionnellement, on compte que quatre grands exils. Il y a l'exil de Babel, celui des Madaï, des Mèdes, des Perses. Ensuite, le Galout Yavan. Et ensuite, Rome. quatrième royaume, en fait. Ces galouillotes étaient très différents en ce que les Babyloniens nous ont massacrés, tués ou réduits en esclavage. Sur les Perses, ils ont envisagé une solution finale par Aman, connaissent, ça donnait Pourim. Ils ont envisagé, ils ont essayé de la mettre en œuvre, mais ça n'a pas marché. Hachem. Le galout de Yavan est un galout tout à fait spécial. On a déjà souvent dit que, premièrement, on peut difficilement appeler ça un exil, dans la mesure où ce que nous on appelle galout Yavan, ça se passe sur la terre d'Israël, alors que les Bnei Israël avaient le Beth Amikdash. Seulement, le danger du galout de Yavan, c'était pas l'extermination, enfin la réduction en esclavage, ça n'est pas la solution finale, c'est l'assimilation. Yavan, c'est l'assimilation, c'est-à-dire les Juifs pour Antiochus ben aussi. Les Juifs sont tout à fait bienvenus de continuer de vivre là où ils vivent, à condition de se plier au modèle grec. Le modèle grec, c'est un modèle dans lequel, effectivement, on ne tient compte que de ce qu'on voit, si vous voulez. Et comme Hachem, c'est de l'Israël n'est pas visible, donc pour eux, ça n'existe pas. Des notions comme la Tahara telle que nous l'entendons, ça n'existe pas, etc. Donc, ils ont transformé le Beth Amikdash en un temple païen, un temple grec. Ils ont, sur le Misbéar, ils ont égorgé des porcs, ils ont mis des images dans le Beth Amikdash, etc. Et une société tout entière s'est organisée de la façon grecque. Une société qui a été juive, donc qui a été complètement conquise par les valeurs grecques, les valeurs dominantes, et au point qu'on avait une situation paradoxale du genre, il y avait d'un côté le Beth Amikdash qui fonctionnait comme un temple grec, dans lequel le Kohen Gadol avait pris un nom grec, et là, c'est les Kohanim, effectivement, étaient aussi des prêtres au sens grec du terme. Et ces Kohanim, quand ils avaient terminé leur service, juste à côté du Beth Amikdash, il y avait un grand stade. Et donc, ces Kohanim allaient, là, ils enlevaient leurs vêtements de Kohanim et ils allaient courir nus, comme les Grecs, dans le stade. Et à côté, il y avait encore aussi une forteresse, Akra. Il y avait une garnison grecque qui a duré assez longtemps. Et donc, si on se mettait, par exemple, sur les gradins du stade, on voyait d'un côté le stade, mais si on regardait derrière soi, on voyait ce qui se passait au Beth Amikdash. Vous vous rendez compte, c'est une espèce de... C'est ça, l'assimilation. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence. On a aboli la singularité d'Israël. Ça, l'assimilation. Et ce problème de l'assimilation est un problème qui, depuis ce moment-là, n'a pas cessé d'être un danger pour le clan d'Israël. Il a pris diverses formes. Enfin, ce problème de l'assimilation, c'est encore un problème aujourd'hui extrêmement préoccupant pour les Bnei Israël, bien entendu. L'essentiel de l'establishment, l'Amikdash, etc., tout ça a été acquis aux idées grecques et fonctionnait sur le mode grec. Il y a une minorité, descendant Yohanan Cohen, ben, en fait c'est Matityahu, le fils de Yohanan qui était Cohen Gadol, et sa famille, ses fils essentiellement, qui se sont révoltés, qui ont mené une vraie guérilla. Et cette guérilla, elle a triomphé d'un ennemi qui était beaucoup plus armé, beaucoup plus nombreux, etc. C'est les professionnels de la guerre et tout ce que vous voulez. Et puis cette guérilla a gagné. On dit, en particulier ici en Amérique, on dit que le modèle de guérilla qui a été utilisé par les Hashmonaïm, avec les problèmes, la façon dont les Grecs ont essayé de riposter, etc. C'est un sujet qui est étudié à West Point, ça veut dire même dans les académies militaires. C'est un des premiers documents qu'on a sur une guérilla. Donc, comme les Américains, au moment du Vietnam, ils ont eu ce problème, alors ils se sont mis à étudier le sujet. Alors, pour étudier le sujet, il faut avoir des documents. Et les documents qu'on a, ce sont deux livres. En réalité, c'est des quatre, mais disons, il n'y en a que deux qui sont intéressants. Deux livres qui s'appellent les livres des Maccabées. Ce livre des Maccabées, ces livres des Maccabées n'ont pas été intégrés aux 24 livres, au canon biblique. Ils ne sont donc pas inspirés, etc., mais ils rapportent des choses très intéressantes. Il faut prendre, évidemment, de façon critique. Alors, le livre de Maccabée, ni le premier, ni le deuxième, ne font aucune mention d'une naissance de l'huile. Ça ne veut pas du tout dire que ça n'a pas existé. Ça veut simplement dire qu'à leurs yeux, aux yeux des rédacteurs, là-bas, ce n'était pas fondamental. L'idée était, elle vient de ce que nous avons l'impression. Par exemple, quand on lit le Al-Anissim, alors, dans le Al-Anissim, vous avez la première partie qui décrit la guerre, une guerre que les Maccabim, le livre des Maccabées présente tout à fait comme une guerre miraculeuse, etc. Mais on parle de la guerre, puis ensuite c'est marqué « Va'acharken » ou « Va'acharkach »« Va'uvanecha l'ivnion betecha » Les Bnei Israël sont, c'est-à-dire les Hashmonaim, ont reconquis le Beth Amikdash, ils l'ont purifié, etc. Et on a fixé, les Hachamim ont fixé 8 jours de Hallel Ve'oda. Dans ce texte-là, non plus, on ne fait pas mention du miracle de l'huile. De ce texte, on a l'impression que le problème de la conquête du Beth Amikdash est postérieur, enfin, a eu lieu après la guerre. La guerre, et après, Harkar, après, etc. Mais en réalité, ce qui s'est passé, on voit dans justement à partir des documents, c'est pas contradictoire du tout par rapport au contraire, par rapport à la tradition que nous avons, c'est qu'en réalité, le Ness en question, il a eu lieu au moment de la reconquête du Beth Amikdash, c'est-à-dire au bout de 3 ans de guerre. Mais la guerre, elle a continué, il y avait une vingtaine d'années de guerre. La guerre a continué bien après la reconquête du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash a été reconquis, peut-être une partie ou la totalité de Yerushalayim, mais tout le reste des restes d'Israël était encore aux mains des Grecs, et il y avait une guerre qui s'est développée, qui a duré assez très longtemps. Et donc, comment ça se fait qu'on nous décrit les choses comme si le problème de la conquête du Beth Amikdash et la purification du Beth Amikdash apparaissent après la fin de la guerre? C'est que probablement, du point de vue des Chachamim, la guerre, elle était terminée quand on a récupéré le Beth Amikdash. Après, il y avait encore des problèmes à régler, mais le problème étant un problème de l'assimilation, il fallait remettre le centre, le cœur d'Israël, le Beth Amikdash qui était le cœur d'Israël, il fallait le remettre en marche selon les règles de la Torah. Une fois que ce travail-là a été fait, alors on peut considérer que la guerre était d'une certaine manière terminée. La guerre qui a permis de remettre les choses vraiment en place, cette guerre-là, effectivement, elle a duré 3 ans. Et au bout de 3 ans, voilà, ils ont gagné cette guerre. Ensuite, il y a des problèmes militaires qui ont continué, mais c'était pas l'essentiel. Et c'est pour ça que dans le Al-Anissim, on n'a pas mentionné toute la guerre. On a mentionné quand même le problème du Beth Amikdash après la guerre, après la grande guerre qui était la reconquête de ce Beth Amikdash. Alors, si on ne mentionne pas du tout dans les livres des Maccabim, on ne mentionne pas du tout le Nes de l'huile, alors, pourtant, il parle de Hanouka et on parle des 8 jours de Hanouka. Alors, sur quoi étaient basés ces 8 jours de Hanouka? Alors, il y a 2 versions, une dans le premier livre, une dans le deuxième livre des Maccabées. Dans le premier livre des Maccabées, la version, c'est de dire la chose suivante. Le modèle qui a été utilisé pour fixer Hanouka, c'est le suivant. Au moment où Moshe Rabbeinu et Betzalel ont terminé la construction du Mishkan, ce moment-là a eu lieu dans le mois de Kislev. Mais Akadosh Baruch Hu voulait que l'inauguration du Mishkan ait lieu en Nissan, qui était le mois de la délivrance, le mois de la sortie d'Égypte, etc. Et donc, d'une certaine manière, Hachem, comme ça que le Midrash le dit, Hachem a pris il a contracté une dette envers le mois de Kislev, et il a promis au mois de Kislev qu'il serait lui aussi un mois d'inauguration. C'est pour ça que la deuxième inauguration du Beth Amikdash numéro 2, c'est-à-dire Hanouka, a été fixée en Kislev, bien qu'en réalité elle aurait pu avoir lieu d'après les documents aussi, un peu plus tôt. Mais on l'a fixée en Kislev pour pouvoir payer la dette. Et du coup, le modèle, c'est le modèle de l'inauguration du Mishkan par Moshe Rabbeinu qui a duré 8 jours. Donc les 8 jours de Hanouka, et vous remarquez que Hanouka, ça fait référence à l'inauguration, ça fait pas du tout référence au Nes de l'huile. Simplement, c'est l'inauguration du Beth Amikdash qui avait été profané. Donc, c'est comme si il a fallu refaire l'inauguration du deuxième Beth Amikdash qui avait déjà été faite, évidemment, au moment où on l'a construit. Mais il fallait refaire une inauguration, Hanouka, qui est comme une Hanouka tabaït, comme quand les gens, en français, on dit quand ils pendent la crémaillère, je sais pas quoi, à ce moment-là, on a fait une fête d'inauguration qui a duré 8 jours. Et effectivement, on pourrait poser la question, mais pourquoi avoir pris le modèle de Moshe? En fait, il s'agit de la Beth Amikdash, donc on devrait plutôt prendre un modèle de Beth Amikdash, et le Beth Amikdash numéro 1, il a été inauguré par Shlomo HaMelech, et l'inauguration a duré 14 jours, et pas 8. Et pourquoi est-ce qu'on a pris le modèle de Moshe? Pour les raisons que je vous ai dites. Parce qu'il y avait une espèce de dette à payer. Dans le deuxième livre de Maccabées, les 8 jours de Hanouka, qui sont toujours pas mis en rapport avec le Nes de l'huile, puisqu'il n'en parle pas, c'est mis en rapport avec la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, qui était la grande fête qui n'a pas pu être fêtée vu l'occupation grecque, ils ont décidé de la rattraper d'une certaine manière, bien que ça n'ait aucun sens. Et dans le texte, dans le livre des Maccabées, on rapporte que certains ont construit des Sukkot à ce moment-là et qu'ils ont pris le Loulav et le Etrog. Ce qui est évidemment, qui ne veut strictement rien dire, parce que Sukkot n'a pas de sens autrement qu'au moment où il était fixé. Mais en tout cas, ils ont pris ce modèle de Sukkot et ils sont allés très loin dans la copie du modèle, puisqu'il y a eu des Sukkot et puisqu'il y a eu le Loulav et le Etrog. Donc, vous voyez, ça, c'est le problème des 8 jours qui s'explique. Alors, sur le modèle de Moshe Rabbeinu, on comprend pas l'inauguration par Moshe Rabbeinu, on comprend ce qui s'est passé. Le modèle de Sukkot, qui est un non-sens, néanmoins, il y a un petit remez de ce qui s'est passé à ce moment-là copier un peu Sukkot, dans la situation suivante. Vous savez que une fois qu'on a décidé qu'on ferait 8 jours de fête par rapport à la fiole qui a brûlé 8 jours, alors il y a une machloket Beit Shammai et Beit Hillel qui est très célèbre, qui est que Beit Hillel disent qu'il faut, alors d'abord il faut que je précise que la mitzvah d'allumer une lumière de Hanouka, c'est la mitzvah, c'est d'allumer une lumière chaque soir, chaque jour, une lumière par maison chaque jour. Ner, Ish ou Beto. Une lumière pour chaque maison. Et ensuite, on a fait ce qui peut se faire pour toutes les mitzvot. On a fait des embellissements. Bon, ça veut dire, on a fait mehadrin, on a embelli la fête et on a dit que on allait publier en quelque sorte ner ish ou beto. On va prendre, va dire combien de personnes habitent dans cette maison. Et donc, en fonction de nombre d'enfants, par exemple, qui habitent dans cette maison, en utilisant, c'est une chose qui est en soi assez difficile à comprendre, mais en considérant que le mari et la femme n'allument qu'une seule lumière pour eux, mais ensuite, s'il y a 5 enfants, on va allumer 6 lumières le premier jour, et 6 lumières le deuxième jour, et 6 lumières le troisième jour, etc., chaque fois, en fonction du nombre d'habitants dans la maison. Et puis, il y a un méadrine de méadrine, où on va faire encore autre chose. On va allumer en fonction du jour, c'est-à-dire, on va dire qu'on allume, revenons à la situation, une lumière par maison, une lumière le premier jour, 2 lumières le deuxième, 3 lumières le troisième et 8 lumières le 8e. Ça, c'est ce que nous faisons. Nous faisons comme ça aussi aujourd'hui, parce que si vous entrez chez un antiquaire et que vous lui demandez une menorah de Hanouka et que vous lui dites qu'en fait c'est simplement un seul bougeoir, il ne comprendra pas ce que vous lui voulez. Parce que la menorah de Hanouka, c'est une menorah à 8 branches. C'est pas du tout comme la menorah qu'il y avait dans le Beit HaMikdash qui n'avait que 7 branches. Donc on n'a pas copié cela. Parce que, de manière, même si on avait voulu faire quelque chose qui rappelle effectivement la menorah du Beit HaMikdash, quand on fait des rappels, on fait jamais exactement la même chose. On fait quelque chose qui nous fait penser à, mais pas la même chose. C'est pas, on va refaire, décaler la même chose que, non. On fait jamais comme ça. Ça, c'est la chita de Beit Hillel. Et nous faisons comme Beit Hillel. Mais Beit Shammai pensait autrement. Beit Shammai disait, on va allumer 8 lumières le premier jour, 7 le second, 6, etc., et 1 lumière à la fin, le 8e jour. Alors, la Shita, l'opinion de Beit Hillel, elle est basée sur un principe qui s'appelle Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridi. Dans le domaine du Kodesh, on monte, on s'élève toujours. Maintenant, comment on explique Beit Shammai? Eh bien, la Gemara dit que Beit Shammai, eux, ont pris modèle sur les taureaux qu'on apporte. Vous savez qu'à Sukkot, on apporte 70 taureaux pour ou contre, selon l'explication, les Umot HaOlam. Et là-bas, ça va en ordre décroissant. Le premier jour, on a 13, 12, etc. Et on descend. Bien sûr, ce modèle le nombre de taureaux décroissant à Sukkot, c'est ça le modèle que la Gemara donne comme modèle de la Shita de Beit Shammai. Donc c'est très intéressant, c'est qu'il y a comme une allusion à ce dont on a parlé dans le deuxième livre des Maccabim, ils ont fait 8 jours par rapport à Sukkot. Bien sûr, c'est pas dit que cette chita n'a aucun sens du point de vue halakhique, la chita de faire Sukkot au mois de Kislev. D'accord, ça marche pas du tout. Mais bon, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont eu l'impression qu'ils devaient faire. Il y a quand même un reste, donc il faudrait réfléchir peut-être plus avant pour savoir, peut-être quand même qu'on trouverait quelque chose pour expliquer pourquoi effectivement ils ont fait 8 jours d'après Sukkot. Voilà, donc c'est le commencement, si vous voulez. Alors, bien sûr, le nes de l'huile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme toujours, les Grecs n'ont pas détruit le Beth Amikdash, ils l'ont transformé en un temple grec. Et il y avait une menorah dans laquelle on allumait donc chaque jour, on allumait toute la menorah, les sept lumières de la menorah du Beth Amikdash, et on allumait à l'huile d'olive et une mèche donc, et chaque jour il fallait nettoyer les scories de la veille, nettoyer, remplir de nouveau les petits contenants là. Et ça, c'est un travail, souvent, c'est le travail d'Aaron tel qu'il est décrit dans la Torah. L'huile qui était utilisée était une huile qui était évidemment fabriquée pour cela. C'était de l'huile qui était pure au sens, évidemment pure au sens où il n'y avait pas de scories, etc. Et c'était l'huile de la super première pression, les premières gouttes de la pression des olives. Donc c'était toute une affaire de produire cette huile. Et puis cette huile, on la produisait en état de pureté, c'est-à-dire les gens qui produisaient cette huile n'étaient pas impurs. On parle de l'impureté, par exemple, d'avoir touché un mort, d'avoir été sous le même toit qu'un mort. Alors ça, quand quelqu'un est dans cet état-là, il doit se purifier. Sa purification, elle dure une semaine. Elle dure 7 jours avec des aspersions. Vous vous souvenez peut-être avec de l'eau dans laquelle il y avait les cendres de la paradouma, etc. Donc, ça mettait une semaine pour avoir des gens qui étaient purs. Or, pendant la guerre, là, tout le monde était impur. Donc, on ne pouvait pas produire de l'huile tout de suite. Et donc, ça mettait 8 jours pour produire de l'huile pure. Alors, ils avaient impurifié toutes les... Ils ont pas détruit les huiles, les Grecs. Ils ont simplement impurifié. Donc, on ne pouvait plus l'utiliser. Mais il y en a une qui a échappé à leur impurification systématique. On a trouvé une fiole. Une fiole, ça contenait suffisamment de combustible, d'huile, pour allumer un jour. Donc, pour allumer les 7 lumières de la menorah pour un jour. Mais bon, alors qu'est-ce qu'on allait faire après? On allait voir. C'est-à-dire, ou bien on va décider que on ne pourra pas allumer, on ne peut pas, on est anoucible. De même qu'on n'a pas allumé jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait les Grecs, on allumera même la semaine prochaine. Ou bien on utilisera un principe qui est que quand tout le monde est impur, alors on peut apporter les corbanotes en état d'impureté. Donc en réalité, on aurait pu allumer la menorah avec de l'huile impure, parce que tout le monde était impur. Mais bien sûr, si on l'avait fait, alors toute la démonstration de la façon dont on voulait vivre le Beth Amikdash, etc., là, toute la notion de Tahara allait tomber un peu à l'eau. Donc, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Pas faire de la fiction, on n'en sait rien. On n'a pas eu besoin de le faire. Il y a eu un miracle et ça a brûlé pendant 8 jours. Alors, il y a une question archi célèbre qui a été posée par Rabbi Yosef Karol, auteur du Shulchan Aruch. La question, elle est très simple dans elle-même. On a trouvé une fiole. Donc, on avait de quoi allumer la menorah pendant un jour. Donc, le miracle, il a duré 7 jours. Parce que le premier jour, c'était pas miraculeux, il y en avait de l'huile. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait Hanouka à 8 jours? On devrait faire Hanouka 7 jours. Alors, il y a un Sefer dans lequel il y a, je crois, 500 réponses à cette question. Elles ne sont pas toutes complètement indépendantes. Alors, on peut donner comme réponse, eh bien, les 8 jours, et on a fait aussi 8 jours parce que c'était sur le modèle de Moshe Rabbeinu. Bon, par exemple, ça résoudrait le problème. On peut aussi dire qu'effectivement, le premier jour, ça n'a pas brûlé, le combustible n'était pas miraculeux, si vous voulez, mais le fait qu'on ait trouvé une fiole indemne, c'est déjà en soi un miracle. Donc, finalement, même l'huile pour le premier jour, c'était aussi une huile miraculeuse, pas parce que ça brûlait alors que ça n'aurait pas dû brûler, mais parce que on n'aurait pas dû. Normalement, on aurait, s'ils avaient fait parfaitement leur travail de destruction, eh bien, on aurait trouvé 0 fiole. Et on en a trouvé une. Donc, c'est vrai que c'est pas le même miracle. Le miracle du premier jour n'est pas le même que celui des 7 autres jours, mais c'est quand même miraculeux et donc on comprend bien que fasse. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres réponses. C'est pas tellement intéressant de chercher les réponses ici. La question est intéressante en soi. Bien. Les Hashmonaïm ont gagné cette guerre. Ils étaient, comme on le dit dans l'Anissim, ils étaient Me'atim, ils étaient très peu nombreux à faire cette guerre. Bon, c'est quasiment une famille qui a fait la guerre. Après, probablement d'autres gens se sont joints à eux, mais c'est une famille qui a été capable de cette Messirut Nefesh. A priori, il n'y avait aucune chance, sur le papier, il n'avait aucune chance de gagner. Bon, c'était perdu d'avance. Aujourd'hui, on sait que les guérillas sont capables, même si elles sont peu nombreuses, de poser des problèmes même aux plus grandes puissances. Mais bon, on n'avait pas cette expérience-là. Donc, eux, ils ont commencé ce travail. Et donc, en réalité, comme quasiment tout le peuple était acquis aux idées grecques, on a affaire non pas à une guerre contre la Grèce. Il n'y avait pas de Grecs probablement là-bas, ou en tout pas très peu. On va mettre un peu de lumière. Donc, on avait une situation de presque désespérée, finalement. Justement, le fait qu'Hachem ait permis qu'au bout de 3 ans, on récupère le Beth Amikdash, et qu'en plus, il y a un S, mais même s'il n'y avait pas eu ce S, c'était déjà quelque chose de très extraordinaire et qui allait donner de la force, de l'énergie. Tout à coup, c'est devenu possible. Cette guerre qu'il était impossible de gagner a priori, tout à coup, il s'avérait que oui, on pouvait la gagner. Hachem pouvait faire en sorte qu'on la gagne. Donc, du coup, ça a donné de l'énergie et de la force. Donc, les Hashmonaïm ont lutté contre des gens qui étaient complètement acquis aux idées grecques. Donc, la victoire est une victoire sur la Grèce. Bon. Ensuite, il a fallu s'organiser. Et donc, il a fallu nommer un roi ou un chef ou quelque chose. Mais tous les gens qui étaient susceptibles de jouer ce rôle-là, ces gens-là étaient tous acquis aux idées grecques. Alors, qui se soit tardivement rallié à la victoire des Maccabées, etc., très possible, mais c'était pas tellement, non pas tellement, pas obligatoirement très sincère, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Hashmonaïm, qui étaient donc des Kohanim, ont pris pour eux, ils ont pris la royauté. Ils se sont bombardés, en quelque sorte, rois. Et donc, comme le Rambam le dit, ils ont Emidou Melech Mina Kohanim. Alors, comme vous savez, il y a séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le roi ne peut pas être quelqu'un de la tribu de Lévi. Bon, c'est séparé. La tribu royale, c'est la tribu de Yehuda. Et la tribu sacerdotale, c'est celle qui s'occupe du Beth Amikdash, etc. C'est la tribu de Lévi. Dans les Kohanim, Lévi. Et normalement, ça doit être séparé. Or, là, ça s'est retrouvé que c'était les mêmes. C'est la tribu de Lévi qui avait à la fois le Beth Amikdash, la Kehuna Gdola, et à la fois la royauté. Et ça a donné un désastre. Un désastre, c'est-à-dire que déjà, tout de suite, nos descendants sont redevenus de plus en plus grecs eux-mêmes. C'est au point qu'on a eu des rois absolument, c'était des juifs, mais ils étaient absolument des crapules. Le roi Yanaï qui a fait tuer tous les Chachamim qu'il pouvait tuer. Heureusement, il a fini par mourir assez tôt. Enfin, malgré pas assez tôt peut-être, mais disons, il a fini par mourir. Et c'est sa femme, Shlom Tzion, elle s'appelle en grec, elle s'appelle Salomé Alexandra. Pendant une dizaine d'années, c'est elle qui a été la reine. Mais personne ne parle du fait que c'est tout à coup il y avait une reine qui était une femme. Enfin, le roi était une femme. Personne n'en fait ne le critique tellement dans la mesure où c'est les seules années où les choses se sont passées comme en pi à Torah. Elle avait un frère qu'elle a protégé de son mari, le rabbi Shimon ben Shetach, qui a reconstitué quelque chose comme le Sanhedrin. Après qu'on ait tué quasiment tous les Chachamim qu'on pouvait tuer, Yanaï. Donc on a eu ces dizaines d'années, et par conséquent, c'est très... Alors, ces années-là, Rambam appelle les années de royauté juive, très très mal à l'aise avec ce Rambam. D'autant plus que quand le Maharal explique les quatre exils, alors entre l'exil de Yavan, le Galout Yavan disons, et le Galout de Rome, il n'y a pas de période d'autonomie juive. Dans la description du Maharal, pratiquement personne ne dit qu'il y a eu une période, c'est simplement on a glissé des Grecs, et puis ensuite c'est les Romains, quoi. Mais c'était une continuité. Or, d'après Rambam, on devrait dire, il y a eu le Galout Yavan, il y a eu 200 ans d'autonomie, et puis ensuite le Galout Rome. Mais c'est pas vrai. C'est pas passé comme ça. Pourquoi c'est pas passé comme ça? Parce que, durant cette royauté-là, c'était bien des Juifs qui étaient au pouvoir, mais ces Juifs étaient complètement hellénisés. Hellénisés, et puis petit à petit, même, ils sont devenus romains parce que, au fur et à mesure que Rome est devenue plus puissante, eh bien, ils ont envoyé les Hashmonaïm, les descendants des Hashmonaïm, ont envoyé leurs enfants se former à Rome. Et quand il y a eu ce conflit entre les deux frères pour savoir qui aurait la royauté, eh bien, l'un des deux a appelé ses petits copains à Rome, régler le problème, et les Romains sont venus, et ils ont fait ce que vous savez qu'ils ont fait. On dit Ramban, c'est nous qui avons, les Romains, ils seraient pas venus nous chercher. La Judée n'était pas très intéressante. De toute manière, s'ils avaient besoin de passer, ils auraient passé, c'est tout. Mais ils se seraient pas mêlés de cette histoire. Si ce n'est, l'un d'entre eux, un des frères, a appelé les Romains pour l'aider. Et bien, quand ils sont venus, ils ont nettoyé à leur manière. C'est une véritable catastrophe. Et d'ailleurs, entre l'époque de Hanouka, la victoire de Hanouka, et la Mishnah, il y a à peu près 300 ans. Et dans la Mishnah, il n'y a quasiment pas de référence à Hanouka. Pratiquement rien du tout. Et quand on parle seulement du problème de du nez de l'huile. On parle de l'huile, comment, avec quelles huiles, quelles mèches, etc. Et quelques petites allusions où il y avait toujours un problème de quelqu'un, il y a eu du feu qui a été déclenché. Mais bon, si la personne qui avait allumé le feu chez elle, devant chez elle, l'avait fait parce qu'elle a allumé le nerf de Hanouka, alors elle n'était pas responsable du feu. Donc c'est tout à fait secondaire et on ne parle pas du tout de la victoire militaire. Mais pourquoi ? Parce que cette victoire qui avait probablement généré toutes sortes d'espoirs, ben c'est devenu un désastre. C'est le désastre dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Galout de Rome, finalement. C'est la suite des Hachmonaïm. Alors, un État autonome, au moment de la Mishnah, on pouvait pas y penser. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas parlé du tout de la victoire, parce que Rebbi, bon, il voyait bien que les choses s'étaient pas faites d'après les règles, et ça a mal tourné. Mais aussi, on peut très bien dire que on ne pouvait pas dire, par exemple, si les Romains nous avaient demandé, mais pourquoi vous allumez des nérotes? On ne peut pas leur dire, écoutez, on allume les nérotes parce que c'est la victoire contre les gens qui nous ont opprimés, qui ont, etc. C'était comme si on leur disait, on vous attend au tournant. Ben, vous n'aurez jamais laissé. Et donc, on leur a dit, non, c'est seulement un miracle. On commémore un miracle. Donc, on n'a pas parlé du tout. Aux Romains, on ne pouvait pas leur raconter qu'il y avait aussi quelque chose à voir avec la guerre. C'est vrai que la guerre était miraculeuse, c'est sûr. Et personne ne dit le contraire. Seulement, de toute manière, on n'aurait pas fait une fête uniquement pour une victoire militaire, même si elle est très importante. C'est pas le derrière de la Torah de faire une fête pour une victoire militaire. Alors, même si, au fond, ce miracle-là de l'huile, si vous voulez, on en fait toute une affaire, mais en réalité, il y avait, au temple du Beth Amikdash, il y avait tous les jours ce miracle. Tous les jours, on mettait dans les petits récipients dans lesquels on allumait, on mettait la même quantité de combustible dans les 7 branches. Mais le lendemain matin, on allumait le soir. Et le lendemain matin, et toutes les branches étaient éteintes, sauf la branche centrale. Il s'appelle le nerf Maharavi. Et celui-là, il brûlait alors qu'il avait la même quantité de combustible. Donc il y avait un miracle quotidien. Donc, si vous voulez, ce miracle de l'huile, il sortait pas tellement de l'ordinaire. Avec la menorah, on avait l'habitude de ce genre de miracle. Donc, on met du combustible pour quelques heures et puis ça dure une journée toute entière. D'accord, c'était pas 8 jours, mais enfin, c'est aussi le combustible en question était le même ici dans le central que dans le nerf central que dans tous les autres. Et la même quantité et tout, et puis il y en avait un qui brûlait beaucoup plus longtemps que les autres. Et on disait que c'était un témoignage de la présence d'Hachem dans le monde, dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire dans le monde. Et donc, on n'en parle pas tellement dans la Mishnah, pratiquement pas du tout de cette victoire militaire, de cette période-là, C'est juste le Rambam qui fait comme si elle était entièrement positive. C'était quelque chose de positif. Bon. Est-ce que c'était important d'avoir des juifs idolâtres quasiment au pouvoir? Est-ce que c'est vraiment des gens qui veulent détruire les valeurs juives et qui... Est-ce que c'est ça qu'on appelle une gouvernance juive de la terre d'Israël? C'est pas très bien, j'arrive pas très bien à comprendre la vérité. Ce que le Rambam dit là, en mettant ça comme si c'était complètement positif. Alors, on a Hanouka. Et Hanouka, c'est une fête qui a été instaurée par les Chachamim, à opposition à Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., qui sont des fêtes Minatora, d'après la Torah. Alors, il y a une deuxième fête qui a été instaurée aussi par les Chachamim, et qui sont des fêtes qui ont à voir avec le Galout, en principe, si vous voulez. C'est évidemment Pourim. Et les deux fêtes de Hanouka et Pourim ont pratiquement les mêmes dinim. Le Rambam dit, sont astreints à l'allumage des bougies, les mêmes que ceux qui sont astreints à la lecture de la Megillah de Pourim. Donc deux fêtes qui effectivement sont situées dans l'hiver, en fait, entre Soukhot et le Pessah à venir, le nouveau Pessah. Donc tout ce temps-là, il n'y a pas de fête, aucune fête. Et donc il y a ces deux fêtes qui correspondent à deux situations dont on a déjà parlé, c'est-à-dire deux problèmes du galout, c'est-à-dire dans la période entre Soukhot et Pessah. C'est l'hiver, c'est la nuit, c'est les longues nuits, si vous voulez. Et les nuits plus longues que le jour. Elles ont, donc quelque part, elles sont liées au galout, et c'est lié à deux grands problèmes, aux deux grands problèmes du galout. C'est Hanouka, c'est l'assimilation. Et Pourim, c'est l'extermination. Et dans l'histoire juive, il y a eu deux grandes tragédies qui correspondent à Hanouka et Pourim. Hanouka, c'est les valeurs juives qui sont en cause. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait, à ce shalom, adhérer aux valeurs grecques, il n'y arrivait rien. Ça correspond à ce qui s'est passé pendant l'Inquisition. Les gens qui se sont convertis vraiment, ils n'ont rien arrivé. Et Pourim, qui était une solution finale, celle-là, elle s'est finie avec zéro mort, mais la solution finale de la Shoah, 33-45, c'est la même idée. On s'occupe pas de savoir si vous êtes juif d'après la loi juive, ou bien si vous êtes religieux, pas religieux, etc. Homme, femme, enfant, il s'agissait de tuer tout le monde. Aman voulait tuer tout le monde, et dans la Shoah, ils ont essayé de tuer, et ils ont tué tout le monde. De tuer tout le monde. Donc on voit très bien que ces deux problèmes, qui sont les grands sujets de Galout, deux grandes tragédies, en fait, mais chronologiquement, Pourim a eu lieu avant Hanouka. Parce que Pourim a eu lieu dans l'entre-deux-temples, si vous voulez, entre-deux Beth Amikdash, et Hanouka a lieu au milieu du deuxième Beth Amikdash. Mais nous, quand on le vit, dans l'année, on rencontre d'abord Hanouka, à partir de Rosh Hashanah, on rencontre d'abord Hanouka, et ensuite, Pourim. Alors, dans la chronologie, ça ne correspond pas. Et même si on commence à dire, on va utiliser l'autre commencement de l'année, c'est-à-dire Chodesh Hazelachem, si on commence Nissan, on aura aussi d'abord Hanouka et après. De toute manière, Hanouka vient avant Pourim. Ça veut dire le problème dans ce sens-là, l'assimilation, le problème de l'assimilation se rencontre avant le problème de tel qu'on nous le vivons, avant le problème de l'extermination, la solution finale. C'est-à-dire que si on résout pas le problème de l'assimilation, alors on s'expose à la solution finale. C'est-à-dire si, voilà, on sait bien que c'est comme ça que ça s'est présenté. La solution finale, elle est parue après qu'il y ait eu une assimilation gigantesque, galopante en Europe. L'Allemagne en particulier, mais dans toute l'Europe. Et donc, évidemment, les conséquences, si on regarde maintenant qu'est-ce que ça a donné, Hanouka, c'est le moment où commence pratiquement la Torah orale, en fait. Le premier document de Torah orale qui a été mis par écrit, paradoxalement, ce n'est pas la Mishnah. Il y avait quelque chose qui s'appelle Megillat Ta'anit. C'était un rouleau dans lequel était indiqué tous les jours où on n'a pas le droit de jeûner. Tous les jours qui étaient des fêtes où on ne pouvait pas jeûner. On n'a pas le droit de jeûner quand c'est fête. Et donc, on avait cette Megillah qui était le premier écrit, a priori. On nous en parle, la Gemara, elle en parle. Mais entre-temps, elle a disparu. On l'avait déjà perdu à ce moment-là. Ça, c'est le premier. Donc, une liste de fêtes dans lesquelles on n'a pas le droit de jeûner. Donc, en fait, ni à Purim, ni à Hanouka, on a le droit de jeûner. Donc, c'était écrit, effectivement, au fur et à mesure, dans cette Megillah, qui s'appelle Megillah Ta'anit. Donc, à partir de Hanouka, on a les Hashmonaim qui commencent et commence à naître la Torah orale, qui ensuite va être mise en forme, puis ensuite mise par écrit, les circonstances. Donc ça, c'est les suites de Hanouka. À Purim est appelé, c'est le dernier Nes. On a eu le droit d'écrire. Esther, c'est le dernier écrit qui est entré dans le canon biblique. Donc, si vous voulez, c'est la fin de la Torah orale, de la Torah écrite, pardon. La fin de la Torah écrite pour le dernier moment où on a encore écrit les choses. Les textes inspirés, etc., font partie de... Donc, qui était déjà problématique, c'est un peu limite, mais donc ça a passé, c'est dans le canon biblique. Donc on a d'un côté, si vous voulez, juste avant la construction du deuxième Beth Amikdash, on a la fin de la Torah écrite, et puis après la deuxième inauguration du deuxième Beth Amikdash, le commencement de la Torah orale, c'est pas qu'il n'y avait pas l'enseignement oral avant, mais le développement de la Torah orale et la mise par écrit des premiers documents écrits, mis d'abord en forme, puis ensuite de Torah chez Balpé, la Torah qui aurait dû rester orale, mais qu'on a dû mettre par écrit, des raisons techniques. Ça, ça vient après Hanouka. Donc, c'est des produits du galout, en fait, le galout des Mèdes et les Perses, c'est-à-dire ce galout de la solution finale, finalement, si vous voulez, le problème, c'était justement les suites de l'exil consécutif au premier Beth Amikdash. Bon, le premier Beth Amikdash a été détruit par Nebuchadnezzar, un Babylonien. Il y a eu l'exil en Babylone, mais ensuite les Babyloniens ont été battus par les Mèdes et les Perses, et donc sans bouger en quelque sorte. On est resté en exil, simplement changé de maître. Donc c'est la suite de la destruction du premier Beth-Amikdash, c'est la fin de, on dit que la fin, au moment de la destruction du premier Beth-Amikdash, c'est la fin de la nevouah, de la prophétie. Alors il y a encore des restes, si vous voulez, qui vont aller jusqu'à Esther. On va encore considérer que c'est suffisamment prophétique, suffisamment inspiré comme texte, que ça puisse faire partie du canon biblique, donc de la Torah écrite. Et ensuite, après, il y a la Torah orale qui se développe. Donc, qu'est-ce que nous, on a à retiré de la Torah, enfin de Hanouka. C'est intéressant, ça veut dire on allume et on il y a une mitzvah de avec cet allumage très intéressant parce qu'a priori en tout cas la mitzvah telle qu'elle était donnée au départ, il s'agit avec cet allumage d'être mefarsem, de donner de la publicité au miracle. C'est-à-dire, on allume devant chez soi, à l'entrée de sa maison. A priori, on allume quand quelqu'un il va entrer chez lui, il a à droite, en entrant, il a une mezouza. Alors on dit, on va allumer la menorah à gauche, à l'entrée à droite. Être comme ça quand on marche au milieu, on est entouré de mitzvot. Donc on va allumer et puis on allume pour l'extérieur. Ensuite, vous fermez la porte chez vous et vous ne voyez plus. Si vous ne sortez pas, vous ne voyez plus du tout ce que vous avez allumé. Donc, vous avez allumé pour les autres. Mais c'est assez curieux parce que vous allumez pour les autres à un moment où la plupart des gens rentrent chez eux. On va dire que on va allumer et puis il faudra allumer, mettre du combustible, mettre de l'huile ou bougie qui puisse durer assez longtemps. Il faut que ça dure, d'après Rambam, c'est une demi-heure. Ça doit durer une demi-heure dans la nuit, après le coucher du soleil. Or, les gens, ils rentraient chez eux à ce moment-là. Et pourquoi c'est une demi-heure? Parce que on considère que il y a encore dans la rue à ce moment-là, une demi-heure plus tard, il y a encore dans la rue des gens qui vendent du petit bois. Si jamais quelqu'un est rentré chez soi, il s'est aperçu que bon, le feu marche pas comme il veut, il faut allumer le feu, ou, etc. Donc il faut du petit bois pour démarrer. Et il va sortir acheter encore un peu de petit bois. Ces gens-là, ils restaient une demi-heure à peu près après le coucher du soleil. Après, ils disparaissaient. Rentrer chez eux. Il n'y a plus assez de clients possibles. A priori, c'est donné comme ça. Donc, c'est très intéressant. On allume, mais on allume pour les autres. Pour d'autres, dont on ne sait pas très bien qui ce sera. Parce qu'a priori, il n'y a plus beaucoup de monde à ce moment-là. Donc, c'est un allumage pour les autres, alors qu'il y a peu de monde. C'est pas. De toute manière, quand on allume dans la nuit, aujourd'hui, il peut y avoir des gens à toutes sortes d'heures. Mais à ce moment-là, les gens n'étaient pas tellement hors de chez eux pendant la nuit. Ils n'avaient rien à faire hors de chez eux, essentiellement. Donc, c'est on allume pour les autres. Donc, quelque part, y compris, par exemple, si on allume une lumière, je vous ai dit, la loi à la Haïk, il faut allumer une lumière par maison. Voilà. On allume une lumière. Et si ça se trouve, les gens de l'intérieur de la maison, les enfants, etc., s'ils sont pas sortis au moment où on a allumé, ben, ils voient pas. Ils voient éventuellement de chez eux, ils voient peut-être des lumières dans la maison d'en face. C'est très surprenant comme démarche. Comme si, au fond, l'essentiel, c'était le geste d'allumer. Après, bon, ça brûle, c'est bien. Après, il y a une discussion pour savoir si est-ce qu'on doit rallumer un air de Hanouka qui s'est éteint. J'ai mis suffisamment de combustible. J'ai mis de l'huile pour une demi-heure. Mais ça s'est éteint. Est-ce que je dois le rallumer? Grande discussion dans la Gemara. Pas vraiment besoin de le rallumer, normalement. Donc ça, là, on voit très bien que l'essentiel, c'était quasiment le geste de l'allumage. Mais d'un autre côté, j'allume, mais après, je rentre chez moi, donc j'allume pour, comme on l'a dit, j'allume pour les autres. C'est une drôle de façon de publier le miracle. Alors, il y a une publication du miracle. Comme il y a une publication du miracle de Pourim, qui consiste à lire la Megillah. On publie le Nes de Pourim en lisant la Megillah. Mais là, effectivement, là, on lit ça justement avec beaucoup de monde, avec le plus grand monde, le nombre de gens possible. Rassemble les gens pour venir écouter cette lecture de la Megillah. Donc là, c'est, dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle Pirsum et Nissa. Dans les deux cas, il s'agit de publier le miracle. Mais là, essentiellement, on le publie pour des gens qui sont rassemblés pour écouter qu'on le publie. Et l'autre, on le publie à partir de sa maison, comme si chacun publiait, voilà, je publie qu'il se souvient du Nes, de toute cette histoire où le Nes, effectivement, n'était pas un Nes nécessaire, comme on l'a vu. C'était un Nes qui a été fait, OK, pour donner du courage, probablement, au Hashmonaïm. Et qui, si ça se trouve, sur le moment, ça n'a pas... De toute façon, qui a vu ce Nes? Ce Nes, il a eu lieu à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc, est-ce que personne ne l'a vu? Quand on a su qu'il y a eu ce Nes, mais presque personne ne le savait, ne l'avait vu. Quelques personnes, c'est tout. Donc aussi, ça, effectivement, va publier quelque chose dont les gens n'avaient presque pas conscience, si on ne leur avait pas raconté. Tandis que le Nes de Pourim, tout le monde savait, tout le monde avait eu très très peur d'être massacré, etc. Et donc tout le monde savait à quoi il avait échappé. Mais là, justement, c'est un Nes qui a été fait, qui a été vu par presque personne, qui a donné du courage effectivement à ceux qui pouvaient le voir, parce que c'est chez les Kohanim que ça c'est les gens du Beth Amikdash qui ont vu ce Nes. Donc ceux qui menaient effectivement la guerre contre les valeurs grecques. Alors le problème de savoir quelles étaient vraiment, puisque c'est une histoire de valeurs, c'est les valeurs juives contre les valeurs grecques en fait. Alors c'était quoi le problème des Grecs? Je vous ai dit, le problème des Grecs, c'est que eux, ils ne considéraient pas que quelque chose qu'ils ne voyaient pas, pour eux, ça n'existait pas. Alors, c'est pas complètement, ça s'entend, si on veut, mais aujourd'hui, c'est bien clair que la plupart des choses ne se voient pas, c'est-à-dire Vous avez de l'électricité, mais vous ne voyez pas les électrons. On voit pas les électrons, on voit pas. Quand vous avez une table, vous voyez pas la composition atomique et pas les molécules qui la constituent, etc. Il y a plein de choses qui sont absolument pas vues et qui existent pourtant très, peut-être même plus fortement que les choses qu'on voit. Les Grecs, ça se voit pas, ça n'existe pas. Par conséquent, ce que les Juifs disaient, leur Dieu, etc., tout ça, c'est, eux, ça ne pouvait pas exister puisqu'on ne pouvait pas le voir. Alors la réalité, c'est effectivement que cette divinité, donc, qui n'est pas visible, ce qu'il s'agit de comprendre, toujours, c'est comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, mais qui est complètement incompréhensible. Pas accessible, ça nous dépasse complètement. Dépasse complètement, mais c'est au-dessus là, c'est là. Et donc, le paradoxe de cette divinité, c'est que, si vous voulez, Akadosh Baruch Hu, il est hors du monde, mais il veut être dans le monde. Il veut être reconnu dans. Donc, il se donne à voir de certaines manières. Il se donne à voir par la Torah, par les mitzvot, par la nature, etc. D'accord? Mais on le voit jamais, lui. D'accord? Il donne à voir des choses, mais on ne voit pas. Lui, on ne le voit pas, évidemment. Et donc, c'est une difficulté pour beaucoup de monde. Gens, il y a aujourd'hui encore probablement beaucoup de gens pour qui la notion de Akadosh Baruch Hu, c'est pas loin d'être un vieux monsieur avec une grande barbe blanche, quoi, pas loin. Mais quand ça ne l'est pas, c'est pas si facile de comprendre qu'il y a quelque chose qui est là et qui agit sur moi. Mais qui m'est totalement inaccessible, incompréhensible. On peut comprendre certaines choses, mais ça ne nous permet pas du tout d'inférer quoi que ce soit sur Akadosh Baruch. Donc les Hashmonaïm, ils se sont battus contre des gens qui étaient acquis aux idées grecques parce que c'était quand même beaucoup plus facile d'adhérer aux idées grecques. D'abord, premièrement, il y a une force de. Vous avez un empire, d'accord, des gens qui pensent la même chose, plus ou moins la même chose, en tout cas. Bien sûr, c'est plus facile d'adhérer à cela. Et surtout que. Le système grec était un système très explicatif, c'est-à-dire, voilà, c'est la science, quoi, on peut décrire les choses. Et la grande idée, si vous voulez, c'est que pour les Grecs, il y a un monde, le cosmos, si vous voulez, qui influence les gens. Bon, il y a une influence alors il y a une influence des planètes, une influence du monde entier sur, enfin de tout ce qui existe. Alors, c'est pas faux, il y a des influences. Mais leur idée, c'est que l'important, c'est que ce cosmos influence les hommes. Et nous, on veut construire un homme qui influence le monde. C'est la démarche complètement inverse. Eux, ils ne voulaient pas construire un homme. Eux, ils veulent que l'homme se plie, en fait, à la puissance et qu'il devienne. Voilà, on connaît, voilà, c'est comme ça. Et pour nous, pour la Torah, il s'agit de construire l'homme. L'homme doit se construire Et lui, cet homme-là, il est appelé à construire le monde. C'est ça c'est en cela que l'être humain, d'après la Torah, est l'associé d'Hachem. Il est invité à, avec Hachem, construire le monde. Ça, c'est une énorme responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité du point de vue grec, il n'y a pas de pas responsable. On n'a rien construit. Les choses sont comme ça, elles s'imposent. Chez nous, le problème, c'est nous construisons effectivement les choses. On construit un homme, Torah veut construire un homme. Alors, elle veut construire un homme, mais elle ne veut pas construire un homme, elle ne veut pas construire des robots, des gens qui sont la reproduction du même bonhomme, un X, Y exemplaire. Construit un homme. Et quand tu construis un homme, ben c'est lui-même qui se construit, il vient là avec sa personnalité. Donc il faut comprendre qu'on a des gens, chacun vient avec sa personnalité. Par conséquent, nous, comme on l'avait vu dans le Maharal par exemple, nous on a des gens qui viennent chacun dire comment ils comprennent les choses, comment ils comprennent ce qui nous a été donné pour nous aider à nous construire, à savoir la Torah. Mais il n'y a pas qu'une seule façon de voir la Torah. Vous voyez, on vient d'expliquer, il y a une marloquette de Benjamin Betilé, comment on pratique la mitzvah de Hanouka. Ceux-là font comme ci, ceux-là font comme ça. On ne va pas dire que ce que font les gens de Beit Shammai, c'est complètement débile. C'est pas la halakha, mais c'est une voie. C'est une façon de faire les choses. Maintenant, on a défini une halakha. La halakha, elle a été établie par une notion de rov, majorité. On fait une majorité. Celui-là, il pense comme si on arrive à trouver une majorité d'opinion, pas de personne. Quand on veut passer aux voix, on compte les arguments, si vous voulez, et pas les personnes. Ça veut dire que si, dans un tribunal, vous avez une personne qui dit, moi, je pense que la personne en question, elle est coupable pour telle et telle raison. Si le voisin dit, moi, je suis d'accord avec toi, je pense aussi qu'il est coupable pour la même raison, ça compte seulement une voix. On ne compte que les différentes opinions. C'est important. Tu existes si tu as une opinion qui est la tienne. Tu peux défendre ton opinion. Alors, il s'agit de la défendre. Elle va être critiquée. La Gemara, elle est pleine de critiques. Celui-là dit comme ça et on arrive, on essaie de le coincer, on essaie de le démontrer qu'il a tort éventuellement, mais si on n'arrive pas à le démontrer, ben, il a raison. Mais ça ne veut pas encore dire que la phrase sera comme lui. La phrase, c'est une autre affaire. C'est un autre nom. Il s'agit de, là, il faut bien trancher. Alors, on tranche. Mais dans l'étude, les choses peuvent rester différentes. Pas besoin de trancher. Ça ne veut pas dire que tu as tort et que tu as raison. Non. Il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est ça la construction par les Israël. On construit effectivement un homme qui, lui, va construire le monde. C'est opposé à ce que les Grecs faisaient. Eux, il y a un monde tel qu'ils le décrivent, ils savent bien, très bien le décrire. Bon, mais ensuite, ce monde s'impose à l'homme, c'est-à-dire, il écrase l'homme, en fait. Donc, c'était ça la lutte, en réalité, les valeurs juives et les valeurs grecques. Et si vous voulez, on peut dire qu'il y a eu une victoire et que cette victoire a débouché sur un échec gigantesque. C'est tragique comme échec. Les gens qui ont lutté contre la Grèce sont devenus eux-mêmes. Et pas simplement dans les idées, mais jusqu'à aller tuer ceux qui ne pensent pas comme eux. Yanaï qui va tuer le roi Yanaï, qui tue les Chachamim, tue tout le monde. Sa femme, elle a caché son frère. Donc c'est ça la situation qui est, on peut dire, à Pourim, effectivement, les gens se sont réjouis, ils ont été sauvés, etc. Il y a eu aussi des gens qui n'étaient pas. Il y a toutes sortes de gens qui se sont dit à Pourim, ils ont dit, mais nous, on n'était pas vraiment en danger, on les connaît, nos voisins, ils ne nous auraient jamais fait du mal. Oui, vous demandez éventuellement aux juifs allemands ce qui s'est passé, ou en polonais, ce qui s'est passé avec leurs voisins qui étaient si gentils. Le jour au lendemain, ils les ont tués. C'est comme ça, mais les gens, il y avait des gens qui ne voulaient pas, ils ne voulaient pas faire Pourim. Ils ne voulaient pas en faire une histoire, on n'était pas vraiment en danger. Nos voisins, on les connaissait. Ils ne nous auraient pas fait de mal. Il y a toujours des gens qui comprennent rien, quoi. Là-bas, à Pourim, à Hanouka, c'est les mêmes gens. Les autres gens, on peut se demander dans quelle mesure ils ont été convaincus par la victoire de Hanouka. Gens, peut-être, ils ont suivi les plus forts. Et puis, comme de toute manière, le mode grec était plus facile à vivre que le mode de la Torah, c'est sûr qu'ils allaient du côté le plus facile. Mais justement, le tragique, c'est que ces élites, voilà comme ça, qui sont ceux, les descendants de ceux qui se sont donnés avec Messirut Nefesh, se sont sacrifiés pour sauver ce qui pouvait encore être sauvé à ce moment-là. C'était vraiment le dernier moment, hein. Le monde était acquis aux idées grecques, il n'y avait plus grand-chose à faire. Eux, ils ont réagi. Donc, ça a passé par toutes sortes de, comme je vous ai dit, toutes sortes de situations. Mais malheureusement, ça, c'est un échec énorme. Très, très, très douloureux, très. Bon, c'est déprimant de lire toute l'histoire. On lit jusqu'à Hanouka, ah, c'est extraordinaire. Mais si tu continues de lire la suite. Il faut être sérieusement déprimé. Alors, il ne faut pas déprimer, hein, il faut. L'important, c'est quand même d'aller baigner, etc. Ça, c'est pour le mental.
Rav,
Voilà.
s'il vous plaît.
C'est là.
S'il
Oui.
vous plaît, Théodile. Pourquoi on perpétue alors une victoire lorsque, dans le temps, ça s'est démenti, ils n'ont pas pu perpétuer eux-mêmes?
Excusez-moi, j'ai pas bien compris ce que vous avez dit.
J'ai dit, pourquoi nous, à notre époque, on doit perpétuer une victoire lorsque dans le temps eux-mêmes, c'est-à-dire de génération en génération, même, ils n'ont pas réussi à la perpétuer. Ils se sont détachés.
Voilà,
C'est-à-dire que
l'idée, comme vous voyez, nous, ce qu'on perpétue. La mitzvah qu'on fait à Hanouka, c'est le Ness. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas, que Rabbi, il n'a pas voulu, enfin les rédacteurs de la Mishnah, il n'a pas voulu faire une fête pour la victoire. De toute manière, je vous ai dit, c'est pas le derech de la Torah de faire une fête. On ne perpétue pas la victoire. Seulement, au moment où elle a eu lieu, il y a eu un miracle. Et c'est pas parce qu'après, et ça c'est très important, il faut être reconnaissant pour quelque chose qui a marché un moment, parce que ça a quand même sauvé les meubles, cette histoire. Après, c'est un désastre. Mais à un moment donné, sur le moment, on a été sauvé quand même par tout ça. Cette victoire-là, cette victoire acquise au prix de Messirut Nefesh, etc., cette victoire-là, elle a été miraculeuse. Ça, c'est dans le livre des Maccabées, c'est très clair. Eux, il y a aucun doute. Ils parlent pas du miracle de l'huile, mais ils parlent bien du miracle de la guerre. Il y a eu un miracle. Comme vous dites, il faut pas, si vous voulez, il faut pas oublier ce qui s'est fait parce que par la suite, c'était pas bien. Parce que par la suite, on n'a pas su le gérer. Il faut être reconnaissant pour chaque moment, en quelque sorte. Alors, on dit, ce moment-là, il était extraordinaire. Hachem nous a aidés et on remercie pour cela. Alanissim, on le dit Alanissim dans la Hoda'a, dans la Shmoneh Esrei ou dans le Birkat Hamazon, dans le Nodé, dans le Modim. D'accord? Ça veut dire dans la partie où on exprime notre reconnaissance à Hachem. Donc on est reconnaissant pour cette victoire. C'est vrai que elle n'a pas donné. On a plein de. Voilà. Mais c'est souvent comme ça, même y compris dans la vie. Des fois, Hachem vous fait une grande chose, puis après, vous n'arrivez pas à le réaliser comme il faut, ça se fait pas, etc. Il faut pas oublier le bon moment parce qu'il a été suivi de mauvais moments. C'est aussi une leçon dans la vie personnelle aussi. Il y a des gens, ça arrive souvent dans les cas de divorce, etc., ils oublient tout ce qu'il y avait de positif que le négatif. Non, c'est cool. Il y a le négatif, on peut plus vivre ensemble. Ok, d'accord. Ça veut pas dire que c'était toujours mauvais. C'est pas vrai. Hein. C'est souvent pas vrai. Des fois, c'était comme ça, mais c'est souvent pas vrai. Donc, ça veut pas dire qu'il faut dire il y avait rien de bon. Non, il y a eu du bon. On n'a pas su le concrétiser. On n'a pas été à la hauteur. Voilà. Ils n'ont pas été à la hauteur. C'était peut-être trop demandé. Je sais pas. Il y a aussi un problème quand les choses arrivent de façon miraculeuse. Alors, et que la vie ensuite, elle est non miraculeuse, ça devient difficile. Comme je vous ai dit, je sais pas du tout combien de gens ont été vraiment convaincus par la victoire. Est-ce qu'ils ont vraiment arrêté de croire aux valeurs grecques ou bien c'est tout? Maintenant, c'est les Hashmonaïm qui ont gagné, alors on va se plier aux Hashmonaïm, mais est-ce que dans leur tête, ça a changé? Change pas si facilement que ça. Surtout quand il s'agit d'aller vers quelque chose de plus exigeant.
Mais ça voudrait dire aussi que cet échec est une construction en soi. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par cet échec. On a besoin du miracle et on a besoin de l'échec aussi.
On devait construire, mais ça n'a pas marché. Ça, je vous dis, je ne sais pas, qu'est-ce que le Rambam veut nous dire quand il dit qu'il y a eu 200 ans de royauté juive? Qu'est-ce que ça veut bien me faire si c'est un juif qui est en train de propager des valeurs contraires à la Torah, etc., qui massacre les Haramim, ou que c'est un goy? À la limite, je préfère que ce soit un goy. Je sais pas quelle est. Visiblement, le Rambam, il a une idée là derrière, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui explique pourquoi le Rambam dit cette chose peut-être j'ai pas bien compris, je sais pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je veux dire, on ne peut pas parler de 200 ans de royauté juive, c'est un non-sens. C'est comme ça, c'est le Rambam. Je ne sais pas répondre. Voilà. Alors, je vous souhaite Hanouka Sameach.